France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui,
Zapp, auteur de bande dessinée.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Dès son plus jeune âge, Philippe Chapuis se passionne pour le dessin et la musique. Zepp, son pseudo, rend d'ailleurs hommage à son groupe préféré, Led Zeppelin. C'est le succès de Titeuf, lancé en 1992, qui va le propulser sur le devant de la scène. Avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus, son héros séduit des générations. Mais Zepp n'hésite pas à explorer d'autres styles, notamment avec Une histoire d'homme en 2013 ou dans l'album The End en 2018, un thriller écologique décrivant un univers apocalyptique. Des terrains graphique, très éloigné de son dessin humoristique habituel. Pour les 30 ans l'année dernière de Titeuf, Zepp signait un 18e tome, suivait la mèche qui faisait la part belle à des sujets comme le dérèglement climatique, les droits des animaux, le végétarisme. En décembre dernier, Titeuf se portait même au secours des océans. Le dernier ouvrage de Zepp qui sort cette semaine, Zepp dessiner le monde, est le fruit de 2 années de conversation avec le journaliste Romain Brett. Ce livre montre des facettes plus organiques de sa personnalité, bien au-delà de Titeuf et du guide du zizi sexuel. Zepp, vous êtes l'invité de La Terre au Carré. Bonjour.
Bonjour.
C'est l'occasion de revenir sur votre parcours et sur vos engagements autour des sujets qui nous intéressent ici dans La Terre au Carré. Mais commençons par le début de votre histoire. Elle commence le 15 décembre 1967 à Aunex en Suisse. Et ce jour-là, voilà ce qu'on pouvait entendre aux infos en France.
9 ans après Mon oncle, Playtime, le nouveau film de Jacques Tati qui lui a demandé 4 années d'efforts, sera présenté demain soir au cinéma L'Empire à Paris, devant la presse du monde entier. Playtime marque le retour à l'écran de Monsieur Hulot, le personnage préféré de Tati, sans doute parce qu'il est un peu son double.
Je défends un dialogue simple, populaire. Ça ne l'intéresse pas d'observer. C'est faux, un chauffeur de taxi observe, un Titi observe. Bon, or moi, je vais souvent, quand je vais voir un match de football, je vais toujours avec les populaires. Pourquoi ? Parce que j'entends un bon dialogue. Bon, moi, mon métier, si vous voulez, c'est ça, c'est de regarder un peu ce qui se passe.
Extrait de l'émission de l'ORTF Panorama, donc le jour de votre naissance, Zepp, est-ce que votre métier de dessinateur, c'est aussi d'observer ce qui se passe ?
Oui, bien sûr, ouais, c'est d'observer ce qui se passe. On le fait de manière plus inconsciente, c'est-à-dire qu'on absorbe énormément d'éléments pendant des années. Il y a un temps de maturation et après ça ressort. Je suis pas un dessinateur de presse qui réagit au quart de tour à l'actualité. Au contraire, c'est souvent des sujets qui s'installent avec le temps. Ouais.
Est-ce que Titeuf, c'est votre Monsieur Hulot à vous ? Est-ce que c'est votre double aussi ou pas ?
Ouais, c'est mon double. Ouais. Ouais, c'est mon double et c'est mon double enfantin. Je l'ai fait longtemps après avoir été moi-même un enfant, donc je l'ai fait déjà avec un décalage avec le personnage, mais c'est un personnage qui m'offre un rendez-vous régulier avec l'enfance. Et c'est pas une enfance que je vais voir comme adulte, mais je me mets dans la peau de ce petit personnage et je visite le monde avec en essayant d'avoir le regard de ce personnage qui est un enfant un peu. Il y a un côté étrange parce que c'est un enfant qui a plus de 30 ans maintenant, donc il a traversé déjà plusieurs générations. Les albums que j'ai fait, l'album que j'ai fait en 92 n'est pas comme un album de Titeuf que je ferai maintenant, et j'aime bien avoir ce rendez-vous régulier qui me replonge dans cette période où le regard sur le monde est quand même un petit peu anxiogène. Enfin, le regard est inquiet. Le regard Titeuf est inquiet. Donc, il s'amuse de tout parce que c'est aussi l'humour comme un guide de survie. Et puis, il se pose des questions sur des sujets qui sont des sujets, entre guillemets, d'adultes. Et l'environnement, pour Titeuf, c'est un sujet d'adulte puisque lui, sa marge de manœuvre, elle est à peu près inexistante.
On en parlera évidemment tout à l'heure avec vous. Vous êtes devenu adulte, Zepp, ça y est, c'est officiel ou pas ?
C'est officiel.
C'est vrai ? Depuis quand ?
Depuis 2013.
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Mais en fait, j'ai fait un album adulte, enfin, j'appelle ça un roman graphique, ça m'arrange d'avoir cette double appellation, même si le roman graphique, c'est la bande dessinée. Mais quand je fais Titeuf, je fais de la bande dessinée. dessinée. Quand je fais Une histoire d'homme ou The End, c'est du roman graphique. Et j'ai fait cet album qui s'appelle Une histoire d'homme, qui me faisait basculer dans un récit qui était pour la première fois pas une comédie, qui racontait des questions, enfin qui parlait de questionnements d'adultes. Et je me suis rendu compte, après l'avoir fait, en fait, que je racontais ma vie, un peu mes préoccupations dans ces deux personnages principaux. Un qui est bloqué en adolescence depuis 20 ans et qui est bloqué à cause d'un secret et qui n'arrive pas à sortir de cet âge et à assumer son âge adulte. Et un autre qui a été happé par une histoire de succès et a perdu beaucoup de repères dans sa vie parce qu'il s'est éloigné de tout ça en suivant le succès. Et c'était un peu ce qui m'arrivait aussi à cette époque-là. Donc, c'était une manière de prendre en main ces questions-là et de les traiter, cette fois pas par le biais de l'humour, pas par le biais de l'enfance, mais avec l'âge d'homme. Voilà.
Ouais, et alors donc, des albums, on va dire, plus personnels peut-être, plus intimes en tout cas. Et pourtant, vous serez toujours identifié à Titeuf, ça vous le savez. C'est le personnage qui vous colle à la peau de toute façon.
Oui, mais ça me fait assez plaisir en fait.
Zeb, vous naissez donc à Aunex, hein, dans le canton de Genève. C'est un territoire de 3 km carrés, j'ai regardé sur Wikipédia. Mm-hmm. Une enfance en Suisse, pour l'imaginaire en général d'un Français, ça ressemble forcément à un décor bucolique avec de beaux alpages. Est-ce que l'enfance du petit Philippe Chapuis, ça colle à ce cliché ou pas du tout?
Non, alors Aunex, c'est une cité, donc c'est des barres d'immeubles en périphérie de la ville de Genève, donc on n'est pas du tout à la montagne, on est en plaine.
On les voit quand même les montagnes, hein, depuis les barres d'immeubles ou pas ?
On les voit, on voit les préalpes, donc c'est pas encore les montagnes, c'est pas les sommets enneigés, ouais. On voit des montagnes assez arrondies, disons. Mais c'est pas, quand on dit cité, en France, ça a tout de suite une connotation avec quelque chose de plus brutal. Là, c'était assez doux, en fait, et c'était une cité qui s'est construite dans les années 60, donc tout le monde venait d'arriver. C'était surtout des familles, énormément d'enfants qui étaient là, on jouait dans cette cité qui était une sorte de chantier géant puisque les immeubles poussaient comme des champignons.
Et pourtant vous décrivez une enfance assez angoissante en fait, c'est ce que vous racontez dans Dessiner le monde précisément dans ces conversations. Qu'est-ce qu'il y avait d'angoissant chez vous ?
Je pense que c'était enfin il y a quelque chose qui est de l'ordre du caractère parce que mes camarades et même ma sœur l'a pas vécu comme ça, mais moi j'ai grandi, mon papa était un inspecteur de police et j'ai grandi dans un immeuble qui appartenait à la police, donc il y avait que des policiers.
Vous deviez vous sentir en sécurité.
Ça semble être l'univers le plus sécuritaire au monde.
Pour un enfant en tout cas, ouais.
Mais mon père rentrait du boulot et nous, les enfants ne parlaient pas à table, donc lui racontait sa journée et à un âge où c'était pas, où j'étais particulièrement poreux à ce qu'il racontait, j'imagine, il était à la brigade criminelle. Et il revenait avec des histoires assez terribles de levée de corps, de choses. Et quand on a 4 ans, 5 ans, et que le monde extérieur est décrit comme un vaste champ de bataille, je pense que ça m'a marqué. Et c'était la période où l'enjeu était tu vas commencer l'école, tu vas commencer la maternelle. Et j'ai fait un lobbying énorme auprès de mes parents pour gagner une année, pour rester une année de plus avec eux.
Ah
c'était possible, en fait. On avait le droit de rentrer qu'en deuxième année de maternelle. Donc je suis resté une année de plus à dessiner dans ma chambre.
À l'époque de la maternelle
Je dessinais à fond. Mais je dessinais, je recopiais des dessins. Je m'inventais un monde imaginaire en dessin. Franchement, si j'avais pu rester toute ma... Enfin, à ce moment-là, si j'avais pu signer pour rester le reste de ma vie dans cette chambre à dessiner, je l'aurais fait. Et j'avais pas du tout envie de sortir et d'aller à l'école. Et j'ai dû quand même le faire, j'étais obligé. Et ça a été pendant longtemps un combat entre aller affronter le monde réel, qui pour finir s'avérait quand même beaucoup moins violent que dans les histoires de mon papa.
Vos parents étaient sensibles au fait de vous voir dessiner comme ça beaucoup ou pas ?
Pas particulièrement, ils trouvaient ça bien, mais tous les enfants dessinent, donc ils voyaient que je dessinais peut-être un peu plus que les autres, et qu'après c'était quelque chose qui m'occupait, c'est-à-dire je suis arrivé à l'école, comme j'avais passé énormément de temps à dessiner, beaucoup plus qu'à jouer au foot, j'avais une avance en dessin sur les autres, qui est très relative hein, quand je vois mes dessins de l'époque, mais je suis devenu de fait le dessinateur de l'école. Donc tous mes copains me demandaient de faire un dessin.
Vous dessiniez, mais vous racontiez aussi déjà des histoires. histoires, c'est peut-être ce qui vous distinguait quand même d'un simple dessinateur.
Je racontais des histoires, ouais. Alors, je racontais, j'écrivais pas très très bien encore, hein, c'était le début de l'école, mais je racontais des histoires, je me rappelle que je racontais dans le préau des histoires à mes copains. Et donc j'avais à la fois ce côté, j'étais un conteur et j'étais un dessinateur.
Ouais.
Et ça m'a accordé tout de suite une place dans cette petite société qu'est l'école.
Et vous rentrez donc à 14 ans aux Arts Déco. Votre père, pareil, il était OK pour ce type d'études ou pas?
Il était OK, ouais. C'était un flic très, très ouvert pour ça, mon père. En fait, il m'avait dit un truc qui m'avait libéré. C'est qu'il m'a dit, choisis le métier que tu aimes, choisis l'activité que tu aimes, parce que tu seras content de te lever chaque matin. Et il avait raison. Et j'ai appris très longtemps après, j'avais 20 ans quand j'ai appris que mon grand-père paternel, donc le père de mon père, que j'ai pas connu, qui est mort bien avant ma naissance, était peintre.
Mais c'est incroyable, on ne l'avait jamais dit, ça.
Et c'était, parce que c'était on m'a toujours dit que ça avait été quelqu'un, que c'était un mauvais père.
Il
n'y
avait pas de peinture de votre grand-père,
non,
par exemple?
Il reste rien du tout. En fait,
comment ça se fait?
C'était quelqu'un qui jouait, qui buvait, qui était très peu présent à la maison. Donc, on me l'a dépeint comme un personnage pas vraiment, un peu la honte de la famille, en fait.
Ouais.
Et un jour, on me dit comme ça, je crois que c'était le jour de mes 20 ans, on me dit, tu dessines toujours comme ton grand-père qui était peintre. J'étais à quoi? Je savais pas ça, et c'est quand même une information d'importance.
Ça vous a touché?
À 20 ans, je m'intéressais pas encore tellement à la généalogie, mais disons que oui, ça m'a semblé. Je me suis dit, tiens, pourquoi on m'a jamais dit ça? Et on m'a dit non, mais de toute façon, je dis, mais qu'est-ce qu'il peignait? C'était quoi? Il me dit, oh, je sais plus. Des trucs, de toute façon, il reste aucun tableau de lui, il a tout donné dans des bistrots, parce qu'il avait des dettes partout, enfin voilà. Donc il reste rien de lui, mais j'imagine que quand j'ai dit à mon père que je voulais être artiste, ça a dû être quelque chose d'assez étrange, donc je trouve qu'il a été particulièrement ouvert pour me dire ça, et pas me dire, mais quelle horreur, jamais je laisserai mon fils faire une chose pareille, parce qu'il avait forcément une image de l'artiste comme quelqu'un de pas fiable, d'alcoolique, et qui finissait sa vie péniblement dans les bistrots.
Est-ce qu'avec votre père policier, il y a eu des discussions autour du service militaire, par exemple, ou pas?
Mais là aussi, en fait, moi je me suis engagé quand j'avais 20 ans pour l'abolition de l'armée en Suisse, parce que ça a été une votation qui a ébranlé un peu le pays. Hein. On est une super démocratie, donc vous savez, on vote tout, c'est une démocratie directe. Donc c'était une initiative et qui a remporté 46% de oui. Donc c'est-à-dire qu'on est passé à deux doigts d'abolir notre armée. Et moi j'avais fait les affiches de la campagne, enfin, je m'étais engagé à l'époque, parce que ça me semblait être une réforme importante et qui faisait sens. Et mon père trouvait ça plutôt rigolo, en fait.
Ah oui, ouais. Incroyable.
Il m'a pas du tout. J'étais pas dans un climat avec une idéologie marquée. Mes parents étaient très ouverts à tout ce qui pouvait arriver. Et j'étais le deuxième. C'était aussi plus facile. Je pense qu'ils ont été un peu plus durs avec ma sœur.
On va écouter un extrait du JT de France 3 Alpes en novembre 1989, justement.
Le général suisse Guillaume Henri Dufour a de quoi se retourner dans sa tombe. Les 25 et 26 novembre, ses descendants seront appelés à se prononcer par voie de référendum sur une question qui divise littéralement le pays, pour ou contre la suppression de l'armée. Mais à quelques jours du scrutin, on constate dans l'opinion publique que l'attachement à la défense nationale, jadis une valeur sûre, est de plus en plus mise en question. Un récent sondage fait état de 30% d'opinions favorables à la suppression totale de l'armée.
Et donc le résultat, vous le donniez tout
il y
à l'heure.
Beaucoup plus que 30%, mais ça a quand même pas passé. Ouais. Mais ça a été un choc national, et ça a déclenché une réforme de l'armée assez. Ouais. On était encore dans une armée qui était complètement calquée sur la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est devenu quelque chose qui était plus de l'ordre de l'assistance civile. Enfin, les militaires venaient au secours en cas d'avalanche. Enfin, il y avait une utilité plus directe. C'était plus des gens qui dépensaient juste des sommes colossales pour faire péter des missiles sur des terrains vagues.
Là, on est donc en 89 et Titeuf arrive 3 ans plus tard. Hein. Mm-hmm. C'est 1992. Et alors, c'est étonnant parce que dans les entretiens avec Romain Brett, vous décrivez un processus hyper fluide de création autour de Titeuf, comme s'il avait déjà existé en vous et que ça coulait sur le papier.
Mmh. Je pense qu'il avait d'une certaine manière déjà existé en moi, puisque j'avais été un petit garçon de 10 ans. Et il était une espèce de double un peu idéalisé. C'est-à-dire que moi, j'étais beaucoup plus timide que Titeuf, mais je rêvais de poser toutes ces questions et je rêvais de mettre mal à l'aise très souvent les adultes avec ce genre de questions qui me venaient à l'esprit, mais je n'osais pas le faire. Ouais. Donc, ça a été une manière de prolonger mon enfance et peut-être de résoudre certaines choses qui étaient restées en suspens, en fait. Je me suis rendu compte, mais ça, c'est toujours après coup, que je suis sorti de l'enfance sans prendre le temps de lui dire au revoir, comme beaucoup de monde, je pense. C'est-à-dire qu'on s'endort un soir, on est enfant, le lendemain, on se réveille, on est adolescent. Et la testostérone fait la métamorphose, et tout à coup, on n'est plus du tout dans les mêmes préoccupations. Nos jeux d'enfants nous semblent ridicules, on en a honte, on n'a plus envie, on est dans autre chose, notre voix change, enfin, notre corps se transforme, donc on est téléporté ailleurs.
Ah oui.
Et on a laissé plein de choses en plan. Et ça a été une manière de retrouver tout ça, de retrouver ces choses-là, de boucler certaines boucles. Et quand j'ai commencé à faire Titeuf, j'imaginais que c'était un projet au départ personnel que j'allais faire dans un cahier pour fermer un peu ces boucles-là. Et puis je me suis rendu compte que le ton, la liberté qu'il y avait dans ce personnage, parce que probablement aussi, je me disais pas que je le faisais pour un éditeur, mais que je le faisais comme un projet personnel, c'était mieux que les autres projets que je faisais. Et donc, je suis allé beaucoup plus loin, je l'ai proposé à des éditeurs, et de fil en aiguille, Titeuf s'est retrouvé en album.
Et le premier Titeuf est finalement, dites-vous, un exemple de digestion plutôt assez réussi, avec du Achille Talon, du Franquin, du Gottlieb, un peu de BD américaine. Vous dites, j'avais mué, j'étais plus ventriloque, c'était ma voix, et j'allais pouvoir la travailler. Et parallèlement à Titeuf, vous en avez parlé déjà un petit peu tout à l'heure, Zep, vous dessinez d'autres choses, vous explorez d'autres sujets, on va en parler dans un instant, vous êtes l'invité de la Terre au Carré.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Je ne peux pas prendre mes lecteurs pour des idiots, parce qu'en réalité, je ne travaille pas pour les lecteurs, je travaille avant tout pour moi. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est... faut que ça me convienne à moi. Enfin, c'est-à-dire, je travaille pour moi. Et c'est un coup de peau que ça plaise aussi aux lecteurs.
La voix de Gottlieb, Zep, évidemment.
Hein. Tellement bon de le réentendre.
Est-ce que vous aussi, vous travaillez pour vous?
Ouais,
vous reconnaissez
sûr.
Là-dedans?
Ouais. Oh, oui, bah, on est notre premier public. D'ailleurs, pendant quelques années, on est notre seul public.
Ouais.
Donc on prend l'habitude de cette consultation-là. Et
est-ce qu'au fil du succès, il peut y avoir une tentation justement de vouloir plaire au public, de faire ce qu'il attend de vous?
Oui, ouais, je pense que c'est une tentation qui est dangereuse, parce que on sait jamais ce que le public veut. De toute façon, le public, c'est pas une personne, c'est plein de gens différents. Donc, si vous faites une consultation, vous devenez fou, parce que ouais. Les gens veulent des choses très différentes. Et je crois qu'en premier lieu, enfin, je le sais, puisque moi-même, je suis public aussi, je suis lecteur de bande dessinée, j'ai envie d'être surpris. Si j'ai adoré un livre, j'ai pas envie qu'on me serve le même après. Donc, j'ai envie de retrouver la même émotion de découverte. Et ça, c'est une consigne de travail qui est inutilisable.
Ouais. Zep, Dessiner le monde, cet ouvrage donc sort cette semaine, conversation avec Romain Brett aux éditions de la rue de Sèvres, et on en parle avec vous, et c'est l'occasion aussi, donc je le disais tout à l'heure, de découvrir un autre dessinateur, un autre Zep. On découvre beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de dessins, ça retrace en fait votre carrière, hein, cet album. Il y a par exemple Carnet intime chez Gallimard, qui est un livre beaucoup plus personnel, on voit des planches d'ailleurs de Carnet intime, dans lequel il y a beaucoup de paysages, de la montagne, de la mer, et on découvre aussi Zep peintre, parce que vous peignez très bien, finalement.
Merci.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi cet art de la peinture
de
qui s'exprime et de l'aquarelle.
Ouais. En fait, je me rappelle du déclenchement de ces carnets de peinture. J'avais été écouter une conférence de Nicolas Bouvier, qui est un écrivain que j'aimais beaucoup.
L'usage du monde. C'est un Suisse d'ailleurs,
Nicolas Bouvier. C'est un Suisse, ouais, qui habitait pas très très loin de chez moi. Il faisait une lecture et j'avais 20 ans et je vais écouter Nicolas Bouvier. Et il dit, voilà, moi je suis un iconographe. Mon métier pendant longtemps c'était iconographe, c'est-à-dire qu'il était réellement, c'était son titre, il était payé par des musées pour ramener des images et des sons du monde. Donc il faisait la route, ce qui à l'époque était assez nouveau. Il allait dans des endroits improbables et il allait enregistrer, prendre du son avec son agra et il ramenait des photos. Et je me disais, c'est génial, j'adorerais faire ça en fait, ça me plaît. Et paradoxalement, j'étais un vrai dessinateur de BD, c'est-à-dire que mon rêve, ça aurait été de rester dans ma chambre tout pour toujours à dessiner des cases. J'avais pas du tout envie de sortir. Et ma copine de l'époque me dit, mais c'est insupportable, moi j'ai envie qu'on voyage. Donc elle m'a acheté un carnet, elle m'a dit, tu vas faire comme Nicolas Bouillet, tu vas aller faire l'iconographe.
Ça vous a fait aimer le voyage, ça?
Et ça m'a fait aimer le voyage. Ça m'a fait aimer le voyage et ça m'a fait aussi découvrir, redécouvrir, parce que je l'avais déjà fait un peu quand j'étais étudiant, mais le plaisir du dessin d'observation, qui n'est pas le même exercice que le dessin imaginaire. C'est-à-dire que vous êtes là, vous observez, il faut regarder un minimum son papier, vous regardez surtout votre sujet, et vous essayez de le traduire par un trait, par un peu de peinture. On n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas passer 3 semaines à faire un dessin, c'est une demi-heure, une heure maximum, et on remplit comme ça des carnets d'images. Et c'est un plaisir énorme parce que tout à coup, on est en train de cartographier le monde, et le monde devient vôtre. C'est-à-dire que ces endroits qui m'angoissaient un petit peu de sortir de chez moi, j'avais peur d'aller dans des endroits que je ne connaissais pas, j'étais resté très enfant par rapport à ça. Et tout à coup, je trouvais ça génial, je me sentais chez moi partout parce que j'avais dessiné ces lieux.
Et ces mondes qu'on découvre, ces autres mondes de Zep, ce sont des mondes très organiques aussi, hein, parce que je parlais de la montagne, de la mer. Vous aimez aussi dessiner les paysages et la nature?
Je l'ai découvert en faisant cet exercice-là. Parce qu'au départ, je suis un dessinateur de personnages. C'est-à-dire que, un peu comme tous les enfants qui se mettent à faire de la BD, ce qui m'intéressait, c'était de raconter des histoires avec des bons hommes qui parlent, ou des petits animaux qui parlent. Et le décor, je comprenais même pas. Enfin, c'était une ligne d'horizon derrière, éventuellement un bout de mur ou un arbre.
C'était très accessoire. Voilà,
c'était vraiment un accessoire. Enfin, il fallait le faire, donc on le faisait, mais c'était le minimum syndical. Et très souvent aussi, comme souvent dans la bande dessinée, ma manière de faire, c'était que j'ouvrais les bandes dessinées de mes prédécesseurs que j'admirais, et je regardais comment ils avaient fait les décors, et je copiais un peu les mêmes. Donc, je prenais les mêmes résolutions graphiques qu'avait trouvé Franquin, qu'avait trouvé les grands anciens, parce que c'est tellement bien que c'est super. Et du coup, on n'a pas besoin de sortir de chez soi, on peut rester à faire de la bande dessinée qui sort de notre tête et un peu des albums des autres. Et je me contentais de ça, et là, je me rendais compte, comme j'avais commencé Titeuf, que c'était insuffisant, que je pouvais pas prétendre faire une bande dessinée entre guillemets réaliste. Enfin, Titeuf, pour moi, c'était aussi une chronique réaliste de l'enfance, avec un dessin qui ne l'était pas. Mais il fallait que ces décors, ils deviennent à moi. Je pouvais pas me contenter de reprendre ceux des autres. Et donc, c'était aussi, je me suis un peu poussé en me disant, mais il faut que tu apprennes à dessiner et à trouver du plaisir à dessiner ça. Autant de plaisir que tu as à dessiner les personnages, trouve-le à dessiner les décors. Et c'est venu en faisant ce dessin d'observation.
Zep, on va écouter la voix d'un botaniste qui est aussi dessinateur, que vous connaissez bien, c'est Francis Allais, avec un extrait du film de Luc Jacquet, Il était une forêt.
Je m'appelle Francis Allais. J'ai passé ma vie en forêt à regarder naître, vivre et mourir les arbres. Je voudrais, avant qu'il ne soit trop tard, vous faire partager ce voyage de toute une vie, l'histoire des arbres, des grandes forêts des tropiques.
Il était une forêt, je crois que c'est un film qui vous a beaucoup marqué, Zep, et qui vous a permis ensuite de rencontrer Francis Allais.
En fait, quand j'ai commencé à travailler sur l'album The End, c'était un projet que j'avais depuis longtemps. Je disais, un jour, je vais faire un livre dont le personnage sera un arbre. Parce que j'adorais justement dessiner les arbres dans mes carnets. Et je me rendais compte qu'à force de dessiner ces arbres, se développait une sorte de communion avec. C'est-à-dire qu'on est face à un arbre, on reste une heure à l'observer, et on sent qu'il y a un échange, qu'il y a une communication. Enfin, aucun mot n'est échangé, mais bon, déjà, il nous échange, il me nourrit en oxygène pendant que je suis là. Enfin, et on sent une espèce d'espace de protection aussi. Et donc, j'adorais ces moments et j'avais envie de raconter ça, de faire une histoire là autour. Et j'ai entendu ce fait divers africain. Dans les années 80, on retrouve des troupeaux d'antilopes qui ont été décimés pendant la nuit, enfin, qui ont été décimés. Les gardes-chasse se disent, qu'est-ce qui se passe? Braconnage, prédateurs. Mais en fait, il n'y a pas de marque de blessure, d'attaque, ni d'impact de balle. Donc, on comprend pas, on cherche, on autopsie les animaux, on ne trouve rien de spécial dans le restement des feuilles d'acacia qui sont leur nourriture habituelle. Tout est normal, on analyse quand même les feuilles d'acacia pour voir au cas où quelqu'un les aura empoisonnées. Non, tout est normal. Et en fait, un chercheur, un scientifique va un peu plus loin et dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un dessin de la forêt qui décide de se débarrasser de ces antilopes qui sont en surnombre aujourd'hui et qui mettent en péril l'équilibre de la forêt? Et il prend des mesures, il est pris un peu pour un fou quand il propose ça, il prend des mesures et il se rend compte que les acacias, au moment où les antilopes viennent manger, font une montée de tanins qui rendent leurs feuilles toxiques, poison. Et dès que le repas est fini, le tanin redescend, et si on analyse les feuilles, elles sont complètement comestibles. Et en plus, ils balancent dans l'air des gaz d'information pour les autres, les acacias plus loin, pour les prévenir que les antilopes arrivent. Et donc, c'est un carnage. Enfin, ils descendent des dizaines et des dizaines d'antilopes.
Et cette histoire, elle vous stupéfait, en fait.
Et cette histoire, je me dis, c'est incroyable. Enfin, c'est une espèce de crime parfait, en absence d'être dans un Columbo, dans la savane. Et donc, je me mets à écouter énormément de choses autour de l'intelligence des arbres. Ce livre de Peter Volleyball sort à ce moment-là. Et je vais écouter beaucoup de conférences de Francis Allais. Et ce film, évidemment, il était une forêt où il raconte la naissance d'une forêt primaire. Et je me dis, cet homme est passionnant. Je commence à faire ce scénario de The End, qui est une histoire, effectivement, où la forêt, à un moment, se fédère pour décider...
Une internationale des arbres.
Une internationale des arbres. Et donc, ils communiquent par le réseau mycélien, des champignons, ils s'envoient des informations, enfin... J'écris un thriller et je me dis, j'ai quand même envie qu'il soit validé par un spécialiste. Donc je cherche un peu autour de moi et quelqu'un me dit, mais contacte Francis Allais.
Et qu'est-ce qu'il en pense alors de cette histoire d'arbre tueur? Parce que c'est vraiment le scénario aussi de The End.
Il dit, voilà, c'est une fiction, c'est ton droit de faire une fiction. Pour lui, les arbres ne sont pas des tueurs, ce sont des protecteurs.
Est-ce qu'il pourrait se retourner contre l'humanité aussi?
Pourquoi pas?
Vu la façon dont on les traite. Hein.
C'est-à-dire que moi, dans ma vision beaucoup plus utopiste et plus naïve que lui, une des premières fois où on s'est rencontrés, il me dit oui, cette histoire est plausible. Enfin, évidemment, de toute façon, la nature ne garde pas des éléments qui sont nuisibles. Ouais. Et je lui dis, mais peut-être que la nature est bienveillante et qu'elle se rend compte que potentiellement l'humain est encore au début de son évolution et on a encore tout loisir de redresser le tir et de participer au vivant d'une autre manière que ce qu'on a fait jusque-là. Et il me regarde avec son air un peu sévère et il me dit, je pense plutôt que le calendrier de la planète, c'est pas du tout le nôtre. Pour eux, on est arrivé il y a 10 minutes, ils n'ont pas encore décidé ce qu'ils faisaient de nous. Mmh. Mais dès qu'ils vont décider, ils ne vont pas nous garder.
Et vous pourriez dessiner d'ailleurs avec Francis Allais, qui est un très bon dessinateur. Hein. On a vu ses dessins à la Fondation Cartier il y a quelques mois.
Mmh. J'adore son dessin. Et bon, là, c'est encore un monsieur qui grimpe au sommet des arbres pour aller se poser sur la canopée et dessiner. Et j'adorerais faire ça. Et on en a parlé plusieurs fois. Et on ne l'a toujours pas fait parce que voilà, moi, je suis un urbain et je dessine mes bandes dessinées dans ma chambre. Ouais. Et je sais que c'est idiot, mais j'aimerais le faire.
Mais dessiner
vraiment
à quatre mains, ça c'est un truc que vous avez déjà fait ou pas?
À quatre mains, c'est difficile, mais c'est intéressant de dessiner, d'avoir deux regards sur le même sujet. Mmh. De toute façon, vous demandez à 100 personnes de dessiner un arbre, vous aurez 100 dessins différents.
Il y a des arbres que vous préférez dessiner ou pas, Zep?
Plus ils sont âgés, plus c'est agréable, parce qu'on a l'impression qu'on pénètre un peu aussi des secrets de l'histoire. Parce que l'arbre, il porte les marques du temps. Donc, en l'observant, on imagine ce qui s'est passé. Pourquoi tout à coup il a tourné dans cette direction? Pourquoi après il s'est remis par là? C'est jamais simple en fait. C'est pas un arbre qui pousse simplement vers la lumière. Il a eu peut-être eu des prédateurs. Il a peut-être eu un parasite à un moment qui l'a couché. Le parasite est mort. Il est reparti dans l'autre sens. Enfin, on a des arbres qui racontent un destin très torturé.
Zep, en ce moment en France, on assiste à de très nombreuses mobilisations autour justement de la destruction des arbres. Il y a énormément de luttes partout dans notre pays. Le personnage de Thomas Braille, qui est très connu chez nous, qui va faire une grève de la faim pour empêcher le tracé d'une autoroute. Est-ce qu'en Suisse, les arbres suscitent les mêmes mobilisations citoyennes?
La même passion, je ne peux pas dire, parce qu'en fait, je pense que les Français sont plus passionnés que les Suisses de manière générale. Donc il y a un côté toujours plus spectaculaire dans les choses qui se font ici. Nous, on est plus tempérés, on va dire. Mais oui, il y a une mobilisation très forte. Les gens sont attachés à la nature. Et ce qui a vraiment changé par rapport à 20 ans, pour moi, dans ma compréhension, c'est que les gens qui étaient engagés pour la nature il y a 20 ans se sentaient la mission de protéger la nature. Je crois qu'aujourd'hui, on réalise que c'est la nature qui nous protège et qu'on devrait plutôt faire silence et écouter ce qu'elle a à nous dire, parce qu'elle est en train de se manifester, elle est en train de dire des choses qui sont importantes pour notre devenir. Si on ne l'écoute pas, effectivement, ça risque de pas très très bien se passer.
Zeb, Dessiner le monde, vous êtes notre invité aujourd'hui au Carré.
Mathieu Vidard, La Terre au Carré.
Et Zep, notre invité cet après-midi. Pour ceux qui ne connaissent de vous que Titeuf, il faut absolument découvrir votre travail dans ce livre Zep, Dessiner le monde. C'est à la rue de Sèvres. Qu'est-ce que vous laissez entendre d'ailleurs derrière ce titre Dessiner le monde?
C'est cette envie de cartographier à un moment, de traduire le monde en dessin, qui fait que, ce qu'on raconte un peu dans le livre en fait, moi ma découverte du monde elle passe par le dessin. C'est-à-dire que je pense que si j'avais pas eu ça, je suis pas sûr que je serais sorti de ma chambre. Ouais. J'ai eu envie à un moment d'aller dessiner ce monde, et à force de le dessiner, je l'ai trouvé plus beau que ce que j'imaginais. Et tout ce monde imaginaire que j'ai créé dans la bande dessinée avant, eh ben, il a un peu cessé d'être indispensable, et j'ai pu raconter des histoires plus graves et plus réalistes à partir de là, parce qu'au fond, en ayant perdu perdu ce côté angoissant du monde, ça m'a donné envie d'en parler de manière plus angoissante.
Oui, c'est ça, c'est très étrange, oui. Ouais. Parce qu'on parlait de The End, qui est quand même un livre...
Oui, qui n'est pas un livre particulièrement...
assez apocalyptique, quand même. donc c'est un moment où vous allez mieux, et finalement, vous le projetez dans vos dessins.
C'est ça, parce qu'en fait, l'humour, c'est quelque chose qu'on a besoin d'utiliser aussi comme un rempart, parce qu'on est face à des choses inquiétantes. À partir du moment où on est moins inquiet, on peut aller plus dans le drame, ouais, je pense. Et puis, c'est une fonction des gens qui racontent des histoires. En fait, la fiction, elle est là aussi pour faire prendre conscience au lecteur de certaines choses, que l'information suffit pas. On entend l'information, mais on la vit pas, alors que un récit, on le vit de manière immersive, donc on est beaucoup plus touché par ce qui s'y passe.
Mais il vous inquiète pas, le monde d'aujourd'hui, quand même?
Bien sûr, il est inquiétant en plein de points, disons que je suis plus optimiste aujourd'hui que je ne l'étais quand j'avais 20 ans.
Il faut nous expliquer, alors, sinon on a besoin d'en prendre de la graine, surtout.
Non, mais je suis plus optimiste, je veux dire, parce qu'au fond, la disparition de l'homme n'est pas quelque chose qui m'inquiète tant que ça. C'est un optimisme très relatif. Je ne suis pas persuadé que tout va se passer pour le mieux pour nous. Peut-être bien que cette expérience humaine, au fond, elle va cesser parce qu'elle n'a pas vraiment fonctionné. En fait, elle a fonctionné de manière autonome, mais on a perdu notre lien avec l'ensemble du vivant. Et voilà, et je suis à la fois curieux de voir ce qui va se passer, comment ça va se passer, mais j'ai l'impression que... De mon point de vue très personnel, de m'asseoir dans une forêt et d'écouter ce qui se passe, ça me rend extrêmement confiant sur le devenir de la planète. Mais c'est la préoccupation d'assez peu de gens, effectivement. Donc, je suis pas persuadé que Vladimir Poutine écoute beaucoup ce que
le dit la nature. Il faudrait le mettre plus souvent tout seul dans une forêt, peut-être.
Ouais, pourtant, il habite dans des endroits entourés de belle nature, mais ça suffit pas.
Les animaux, le végétal, l'eau, tout ça trouve sa place dans vos dessins. Vous allez d'ailleurs lui accorder de plus en plus de place à cette nature que je mets entre guillemets, parce qu'on avait Philippe Descola la semaine dernière à votre place, donc on a beaucoup parlé de ce concept de nature. Ouais. Mais en tout cas, ça va prendre plus de place dans vos albums ou pas?
Pour moi, effectivement, ce concept de nature, on fait partie de la nature. Donc il n'y a pas d'un côté la nature, de l'autre côté l'humain. Je pense que ça, c'est des séparations qui ont été faites aussi avec une idée derrière. C'est Francis Allais d'ailleurs qui raconte ça, qui dit que c'était beaucoup plus facile d'accepter qu'on abatte la forêt si on l'appelle l'enfer vert. Mais ça n'a rien d'en enfer.
C'est une construction humaine.
C'est notre poumon, donc c'est absurde d'abattre la forêt. Mmh. Mais ça a été des slogans publicitaires, en fait. C'est du marketing. Et... donc oui, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ça, et c'est plutôt rassurant aussi de savoir que, au fond, on va pas trouver la solution. C'est peut-être pas nous qui avons la solution de ça. Peut-être que la solution, elle est là autour de nous et qu'il faut écouter un peu plus ce qui se passe. Mais cette idée très 70s de dire maintenant notre mission, c'est de protéger la nature, c'est de protéger l'environnement. elle est très militante, mais elle est aussi un peu angoissante, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on va faire pour protéger l'environnement ? On a un peu l'impression que c'est David contre Goliath, et l'environnement, il se protège lui-même. C'est nous qui sommes en train de nous mettre en péril sérieusement.
Des militants et des militantes en particulier, vous en avez aussi de formidables en Suisse, puisque cette année, votre pays a été le premier condamné pour inaction climatique grâce aux aînés pour le climat, qui ont gagné leur bataille juridique contre la Suisse. La Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg a donné raison à cette association. Je voudrais juste qu'on écoute l'une de ces aînés à l'annonce du verdict.
C'est la politique qui doit changer. C'est les politiciens qu'il faut changer, parce que autrement ça ne change rien. C'est ça la fin de l'histoire. Moi j'ai 82 ans, et je ne vais pas voir le but de cette action.
Voilà, nous avons épaté, nous en France, hein, vos aînés, Helvètes, ZEP.
Ouais, c'est beau, c'est une belle action. Ouais.
Ouais. Et elles ont été très médiatisées aussi en Suisse.
Oui, hein. Oui. Mais
et elles incarnent aussi une génération qu'on n'attend pas forcément sur ce terrain-là.
Non, parce que, comme elle le dit, et c'est assez touchant, je ne verrai pas le résultat de cette action. Ils ne se battent pas pour quelque chose qu'ils verront. Et de la même manière, le combat de Francis Allais pour recréer une forêt primaire en Europe, il ne verra pas le résultat, moi non plus. Ça va durer des siècles. Et c'est assez beau de se battre pour des choses qui sont plus grandes que nous, qui vont au-delà de nous. Et je pense que ça... Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut comparer aux personnes un peu folles qui ont lancé les constructions des cathédrales au Moyen-Âge. Quoi. Ils voulaient faire quelque chose, alors c'était pour une autre idée, mais qui était une idée de dévotion. Mais ils voulaient faire quelque chose d'immense dont ils ne verraient jamais le résultat. Et aujourd'hui, c'est peut-être ça, nos cathédrales, c'est d'arriver à recréer des forêts, à recréer des espaces verts, à recréer des poumons sur Terre, à recréer des conditions de vie pour les gens qui viendront après nous.
C'est ça la difficulté d'ailleurs, hein, c'est la temporalité au fond. Mm-hmm. C'est de se dire que la question climatique, c'est une échéance très longue.
Oui, et la temporalité, c'est souvent quelque chose qui fait assez peu partie du monde politique, parce que eux, leur temporalité, elle est souvent à court terme. Ils ont des échéances où ils doivent faire des preuves tout de suite. Et quelqu'un, un politique qui vient, qui vous dit « j'ai un grand projet pour dans 800 ans », on ne va pas le prendre au sérieux.
C'est pas très
pourtant,
vendeur, ouais.
Ce serait vachement bien de l'écouter, ouais. Celui-là, parce qu'il est certainement plus intéressant dans ses propos.
ZEP, quand Titeuf parle environnement, eh bien, ça donne ça.
T'as vu à la télé hier soir ? Paraît que la planète se réchauffe à cause des émissions de gaz carbonique.
Il y a qu'à regarder une autre émission, hein ?
Mais non, les émissions de gaz carbonique, ça veut dire la pollution. Et c'est vachement grave à cause de l'effet de serre, les glaces vont fondre.
Si tu les as pas rangées au congélateur, c'est normal.
Mais les glaces polaires, débile !
Et après, les Esquimaux, ils savent nager.
Mais tu comprends pas, le niveau des océans va monter, la planète va être inondée.
Oh, notre classe aussi ?
Bien sûr, notre classe, toute l'école, toute la ville.
Hein ? Ah bon ? Manu, mais c'est horrible, faut réagir.
Ah ben quand même, c'est pas trop tôt.
J'ai une idée, si on mettait un peu de banquise au congélateur, comme ça le jour où elle a fondu, on n'a qu'à sortir notre banquise de secours.
Ah ouais, t'as raison, si tous les congélateurs du monde étaient remplis de glace, la banquise serait sauvée.
Eh ben voilà, et en plus, il y a des ingénieurs qui pensent vraiment à cette idée-là.
Ouais, on a affaire à des spécialistes.
Carrément, ouais. Donc, Titeuf parle aussi écologie, hein. C'était le cas pour le 30e anniversaire l'année dernière, il y a un album où vous avez vraiment insufflé ces thématiques.
Oui, il y en a peut-être un peu plus dans le dernier, mais ça a toujours fait partie de l'ADN du personnage. Enfin, il questionne les choses il entend les adultes parler de choses et il essaye de comprendre. Et effectivement, je pense que pour les enfants qui ont l'âge de Titeuf aujourd'hui, ils entendent énormément tous les dangers à venir et forcément, ils ont envie de chercher des réponses parce que c'est un petit peu angoissant.
Ouais. Il a même donc participé à une campagne pour les océans avec Surfrider. Donc ça, c'était aussi une façon de le mettre dans un sujet...
Oui, ça c'est l'aspect un peu plus militant. Alors c'est hors bande dessinée, parce que j'ai pas envie non plus que mon personnage devienne un donneur de leçons, on l'a bien compris dans cet extrait, il est pas... il donne pas forcément les bonnes solutions, d'ailleurs je suis pas sûr que c'est aux enfants de les trouver.
Ouais.
Mais il questionne ces sujets-là. Ouais.
Le sujet de la géo-ingénierie, justement, hein, les techniques pour essayer de résoudre les problèmes environnementaux, c'est ce qu'on retrouve aussi dans Ce que nous sommes, autre album que les lecteurs de Titeuf ne connaissent pas forcément, en tout cas, ZEP, où là, on voit une partie de la population qui s'accapare les richesses au détriment d'autres qui vont se réfugier dans la forêt. Donc, c'est vraiment ce débat aujourd'hui d'injustice sociale entre les plus riches et les plus pauvres. Et aussi, là, la question de l'ingénierie.
Oui, alors là, on est dans une société où les plus riches, pour finir, vivent dans une société de divertissement, c'est-à-dire qu'ils ont accès à un cerveau numérique, un deuxième cerveau numérique, ouais. qui leur permet de vivre et de ressentir des émotions et des histoires qu'ils vont programmer. Et on n'est pas très très loin de ça. En fait, je suis parti de cette idée. Cette idée est née parce que j'ai entendu un document sur une équipe de chercheurs qui travaille sur la numérisation d'un cerveau humain. Et c'est un projet très long, donc j'ai rencontré le professeur Magistretti, qui est un neuroscientifique.
C'est un projet suisse d'ailleurs ?
C'est un projet international, ouais. mais qui a été basé en Suisse, à Lausanne.
Le Blue Brain.
Le Blue Brain. Et c'est un truc de fou, en fait. Ils construisent passer l'énergie électrique d'une ville pour faire fonctionner un cerveau, alors que nous, notre cerveau fonctionne avec très peu d'électricité.
C'est pas très écolo comme projet.
C'est pas très écolo, et donc c'est aussi le problème qu'il y a dans ce récit, c'est-à-dire que le coût énergétique de ce divertissement, il est colossal, donc il n'est pas pour tout le monde. Et ceux qui ne l'auront pas, ils vont vraiment tout perdre. Et on voit cette fracture, elle existe de plus en plus, puisque le coût énergétique du divertissement, chez nous, il est immense, et donc il est au détriment des gens qui ne peuvent pas l'avoir. Donc on va prendre de plus en plus des choses, en plus pour créer des mondes virtuels, pour créer du jeu, pour créer du divertissement, pour créer des choses qui nous occupent, parce que on ne sert plus à grand-chose. Et c'est assez hallucinant aussi de voir à quel point il y a cette excitation de mettre de l'argent, des moyens énormes dans l'IA aujourd'hui, qui est en train de nous remplacer pour tout. Et pourquoi pas ? Moi, je suis assez pour la réécriture d'un scénario social, de dire, effectivement, on n'est peut-être pas sur Terre pour bosser 40 heures par semaine, et la justification de notre présence, c'est peut-être pas uniquement de faire marcher des machines.
Et alors, ce serait quoi votre scénario ? C'est intéressant, ça, comme idée, ce serait quoi ?
Je pense qu'on pourrait effectivement déléguer beaucoup de choses aux machines, et nous, avoir une vie qui est basée sur des choses qu'on fait qui nous intéressent, mais qui n'ont pas forcément de rentabilité.
Et il y aurait une notion de justice sociale, alors, évidemment, dans ce projet ?
Oui, puisque là, l'idée, ce serait de... Au fond, même la notion d'argent, aujourd'hui, elle est complètement abstraite. C'est abstrait. On est en train de parler de dette, enfin, récemment, de la dette française, mais c'est des sommes qui n'existent pas. C'est des sommes qui sont virtuelles. Aujourd'hui, toutes les sommes sont virtuelles. On n'est plus du tout dans ce scénario où chaque pays a une somme en or et il peut presser des billets qui correspondent à cette somme-là. Non, c'est de l'écriture. L'argent n'existe plus. Donc, pourquoi pas réécrire ça et de dire que l'argent va être distribué à la population, enfin, pour que chacun puisse vivre décemment, mais que...
Et prendre de l'argent aux riches ou pas, alors, est-ce qu'il faudrait... Parce que c'est un débat aussi aujourd'hui en France, en tout cas, de faire payer plus les riches.
Bien sûr, par exemple, c'est pas normal que, par exemple, tout le trading soit exempt d'impôts. C'est complètement absurde, ça n'a aucun sens. Après, prendre aux riches, c'est-à-dire que si vous voulez prendre aux autres ce que vous n'avez pas, c'est problématique. Parce que si vous prenez aux riches, les riches deviennent pauvres et vous devenez riches. Enfin, comment on va faire l'équilibre ? À quel moment ?
Mais ça, c'est le riche qui parle.
Bien sûr,
c'est le riche qui parle.
Non, mais c'est même le fan de Robin des Bois qui parle. C'est-à-dire que c'est joli dans une histoire de Walt Disney, mais dans la réalité, ça c'est pas exactement comme ça. Il faut un établissement des impôts qui soit correct, évidemment, mais on va pas résoudre. Pour moi, le problème, il est au-delà de ça. C'est pas que on va vous donner de l'argent pour vous rester à rien faire chez vous, parce que les gens, ils dépérissent si on fait ça. Tant qu'on est dans ce scénario de votre présence, elle est là parce que il faut travailler. Si vous travaillez pas, vous êtes un parasite qui est inutile, qui coûte cher à la société. Et donc, les gens dépriment. Mais quand on aura vraiment développé cette IA, ce qu'on est en train de faire, on ne parle pas d'un scénario pendant 20 ans, mais peut-être pendant 5 ans, et qu'il y aura 80% de la population qui ne servira plus à rien et qui sera au chômage, j'espère qu'on aura un peu anticipé ça en écrivant un autre scénario pour que les gens ne se sentent pas profondément inutiles. Ce serait d'une tristesse infinie. Il ne faut pas faire ça. Donc il faut l'anticiper un petit peu. Je n'ai pas l'impression de voir tellement cette anticipation dans nos mesures politiques. Je parle de la Suisse, mais j'ai pas l'impression que la France l'ait fait non plus.
Zep, Tite vous a rendu riche, évidemment, puisque ce sont des albums qui sont énormément vendus, et vous rappelez aussi dans ces entretiens à quel point les plus riches consomment beaucoup plus de ressources de la planète que le reste de la population. Est-ce que finalement, quand on est riche, c'est un problème, ça, de se maîtriser aussi dans sa façon de vivre ?
Oui, mais c'est un problème qui est moins... Enfin, à mon avis, il est moins compliqué que pour des gens qui, ont, qui sont dans la précarité.
Non, mais est-ce qu'on y pense quand on a une conscience écologique, bien même sûr. Si on a beaucoup d'argent, est-ce que c'est quelque chose auquel on pense? Est-ce qu'on se dit, bon, je vais quand même...
C'est pas parce que vous êtes riche que vous êtes obligé de prendre l'avion. C'est pas parce que vous êtes riche que vous êtes obligé de vous acheter des nouveaux vêtements tous les jours et les foutre à la poubelle. C'est pas... J'ai l'impression que, enfin, si on est riche, on a accès à des choses de qualité qui sont moins, qui se consument moins vite. Le mass market, il n'est pas fait pour les riches. Il est fait pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est eux qui sont visés par Shine, par tout ce marketing de masse qui crée du déchet à n'en plus finir. Mais les riches participent abondamment avec toutes des recherches stupides. Enfin, quand on entend le travail, les projets d'Elon Musk, c'est consternant quand même de se dire que quelqu'un d'aussi riche et d'aussi créatif, son projet, c'est de faire des robots et de tout pourrir ici en se disant après, je m'en fous, je vais sur Mars avec mes copains les plus riches. C'est d'une tristesse infinie.
Merci beaucoup, Zep. On peut lire donc Dessiner le monde, conversation avec Romain Brett. C'est aux éditions de la Rue de Sèvres et c'est l'album idéal pour mieux vous connaître et puis pour faire aussi un cadeau de Noël puisqu'on approche des fêtes de fin d'année. Merci beaucoup d'être passé par le studio de la Terre au Carré.
Merci à vous.
Bon retour à vous et on termine comme tous les jours avec vos messages. C'est le répondeur de la Terre au Carré.
Bonjour, c'est Catherine dans l'heure. C'est un message pour monsieur Cyril Dion qui m'a beaucoup énervé. Je crois effectivement qu'il devrait commencer à lâcher un peu son smartphone pour faire un peu le ménage dans sa tête et qu'il devrait, pour commencer, quitter X. Non, 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 on ne peut pas être sur X et se dire écologiste, ce n'est pas possible. Et non, il n'y a pas d'excuse qu'il doit être informé pour son travail, pour ses engagements. Non, non et non. Il faut être cohérent. On ne peut pas soutenir Elon Musk, enfin c'est une aberration. Voilà, bah oui, je suis encore en colère.
Bonjour, c'est Charles de Lyon. Merci pour vos émissions. Je travaille dans la restauration des cours d'eau depuis plus de 20 ans et je suis quand même abasourdi par l'espace médiatique qui a été offert à Baptiste Morisot sur cette question de la restauration des rivières. À minima pour trois raisons. Tout d'abord parce que ces techniques sont déjà connues et mises en œuvre depuis belle lurette, y compris en France. Deuxièmement parce qu'elles n'apportent qu'une partie des solutions et à mon sens, ont des champs d'application relativement limités. Troisièmement, parce que la restauration des milieux aquatiques, souvent, malheureusement, demande des moyens plus importants que ce qui est proposé dans ce livre. En définitive, eh bien, le marketing qui est fait autour de ces techniques est relativement pénible dans notre milieu et je vous invite, si vous le souhaitez, à faire une émission sur la restauration des cours d'eau et la gestion de l'eau. Appelez des gens qui s'y connaissent, il y en a un paquet en France. Merci à vous et bonne suite.
Bonjour, Frédéric de Presque Rennes. Je vous appelle à propos de ce que Cyril Dion a dit sur les filets des pêcheurs qui raclent, détruisent le fond de l'océan. J'ai eu l'occasion d'en voir un pour un petit chalutier tout petit et j'étais impressionnée de la masse énorme de ces blocs de métaux de plusieurs mètres de haut et plusieurs centaines de mètres, parfois de long, et ça fait un désastre, un saccage vraiment phénoménal, et on comprend pourquoi quand on voit ces blocs de métal. Merci.
01 56 40 45 45, merci pour vos messages. Vous continuez bien sûr à nous appeler sur ce répondeur. Merci à Anna Massardier qui a préparé le dossier de cette émission, Maxime Goudard à la technique, et Figaro Frélon Le Floch pour la réalisation.